With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je peux pas faire d'école de réalisation, je sais pas s'il en existe à l'époque ou quoi. Je me dis, c'est la publicité. Et donc, je vais faire un BTS publicité et communication, ou communication et publicité, je sais plus. Et pour me dire, bon, bah, la publicité va m'amener au journalisme, le journalisme à la télé au documentaire, le documentaire aux personnes qui sauvent les espèces en danger. Tu vois, je pense que ça va aller vite, et en fait, c'est pas vraiment le cas.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec Natacha. Salut Natacha.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
Écoute, plutôt bien.
Merci beaucoup de me recevoir, ça me fait plaisir.
Moi je suis très contente aussi, honorée.
On va parler de ton histoire, hein, globalement, et à la fin de ce qui t'amène aujourd'hui dans ton parcours à décider de mettre en avant médiatiquement, dans tes bouquins et médiatiquement aussi, tout le domaine de l'énergie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, c'est que à la base, tu as une formation de journaliste scientifique, ouais. Et que tu as une approche très scientifique. Et je t'avoue que moi, tout l'aspect énergétique qui se rapporte au mystique, je regarde toujours avec un peu de circonspection. Je crois que ça a été aussi ton cas. Mmh. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu viens y refaire des parallèles, en fait, avec la médecine plus classique et traditionnelle telle qu'on l'entend, et puis les sciences aussi.
Et la science, absolument.
Bon, on va reparler de tout ça, mais avant ça, la première question, moi, qui m'intéresse, c'est à quoi tu ressemblais, Natacha, quand tu avais 7-8 ans ?
Un garçon. Je suis un vrai garçon, un garçon manqué. C'est-à-dire que j'ai des pulls trop longs qui ressemblent à rien. J'ai des pantalons en velours qui ressemblent à rien non plus. Et j'ai pas de copines. J'ai que des copains. Ma sœur jumelle et moi, nous avons que des copains et que des garçons. Et on joue aux billes, on joue à des jeux de garçons. Et j'ai jamais eu de poupée de ma vie. Et voilà. Et donc j'aime courir et c'est plutôt sympa.
T'aimes courir?
Ah ouais, j'adore courir, j'ai fait de l'athlétisme, et je suis tout le temps en train de courir, les garçons essaient de m'attraper, et voilà, je suis un garçon avec les garçons.
Ok, en termes de personnalité?
À fond la caisse, et puis...
Est-ce que ça a changé ça?
Non, et puis par contre, grâce à mon père, très 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 branché nature, vraiment omnubilé par la nature, et... La légende veut que dès l'âge de 4 ans, mes parents disaient que dès l'âge de 4 ans, ils savaient que Natacha, elle s'occupera d'une grande cause. En fait, elle a envie d'aider le monde. Voilà. Donc, ça m'est tombé très vite. Je m'intéressais à tout pour aider les gens. C'était vraiment mon leitmotiv. Même un peu après, au collège, pendant la récré, plutôt que de m'amuser avec les potes, je vendais des chocolatines, comme on dit à Bordeaux, et des croissants pour l'UNICEF. Voilà, tout est. C'est important d'agir.
C'est beaucoup de pression aussi, non ? C'est-à-dire que c'est un truc que tes parents te mettaient quelque part sur.
Ah non, pas du tout. Alors eux, c'est pas du tout leur truc, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, ils s'en fichent un peu de ce que je fais. Non, mon père, il pense quelque part qu'à jouer avec ses filles, qu'il appelle les gars. Et puis, comment dire, et ma mère, elle est dans l'imagination, elle fait des contes, etc. Donc, non, c'est, et puis je me mets pas la pression, moi, c'est un objectif de vie. J'ai envie d'aider, c'est ce qui me nourrit. Donc, me lever le matin sans me dire que je vais pouvoir, sans rien faire et sans objectif pour plus tard, ça n'a pas de sens. Je suis vraiment animée par ça.
Déjà toute petite.
Ouais, chaque matin, mais voilà, aujourd'hui, voilà, il y a rien de plus qui me rend heureuse que de savoir qu'une personne va peut-être aller mieux, et si j'y suis pour quelque chose, ça me remplit de bonheur.
Ok. On en reparlera, parce que le lien avec le journalisme, a priori, là, comme ça, je le vois pas vraiment directement.
Ah, mais je vais te raconter.
Ça m'intéresse.
Parce qu'il y en a un très fort.
Ils faisaient quoi, tes parents, dans la vie, comme
Alors,
métier ?
Mon père était fonctionnaire et il était enquêteur pour la caisse d'allocation familiale. Il avait une quinzaine d'enquêtes par semaine et il s'arrangeait pour les faire en 2-3 jours maximum. Donc le mercredi à midi, il avait fini. Et mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mon père, il faisait du sport et il s'amusait parce que lui, c'était réussir sa vie. C'était avoir du temps pour lui. Et ça, c'était important. Voilà. Et ma mère, elle a toujours travaillé soit en mairie, soit elle continue à travailler. Elle a 82 ans aujourd'hui. Et elle fait des médiations. Elle apprend à travers les marionnettes à faire libérer la parole pour les assistantes sociales, voilà, ce genre de choses.
Elle a toujours fait ça ou ouais, c'est un truc qui l'amène aujourd'hui ?
Elle a toujours plus ou moins fait ça, autour du conte, autour de l'imagination. Et ça aussi, ça m'a beaucoup nourrie. Tous les deux, mes parents m'ont beaucoup nourrie à leur manière, à travers l'énergie de ma mère et son imagination, la nature et l'amour des mots de mon père.
Il y a aussi une histoire dont tu parles avec ta sœur jumelle, parce que tu as une sœur jumelle et dans ton dernier bouquin qui s'appelle « Trouver ma place », t'en parles longuement de, justement, le fait de grandir comme ça avec une sœur qui te ressemble et qui te ressemble d'ailleurs en tout point.
Ouais. On est copies conformes de temps en temps. Quand on sort de la piscine, mon père se trompe. Voilà. Ma grand-mère se trompe. On est vraiment, physiquement, j'ai 2 centimètres de plus qu'elle, mais ça se voit pas vraiment. Et on a la même façon de parler, même façon de marcher. On n'a pas le même tempérament du tout. Enfin, on a un peu le même tempérament, mais on n'a pas le même caractère plutôt. Et puis, pas les mêmes yeux non plus. Bon, voilà, pour ceux qui veulent voir les détails, on y voit. Mais sinon, quand on est jeune, on est copie conforme. Et l'intelligence qu'ont eu mes parents, c'est de ne jamais nous habiller pareil. Ce qui fait que ça nous a aidé à cultiver notre différence. Mais à l'âge de 18 ans, on s'est pas séparés plus d'une demi-journée. Donc, et tous les soirs jusqu'à 1h, 2h du matin, on revisite la journée. On est dans une chambre qui est séparée par une petite cloison qui n'est pas fermée en haut. Et donc, oui, mais tu as dit ça, et moi j'ai dit ça, et tu as vu ce qu'un tel nous a dit, et voilà, et comment tu le prends, et voilà. Et donc, c'est pratiquement, c'est plus de 10 ans de psychanalyse quotidienne. Donc, mon envie de nourrir, de comprendre les choses, elle vient de là. J'ai vraiment voulu savoir. C'est une introspection au quotidien, c'est très très nourrissant.
J'imagine, et surtout, j'imagine que ça nourrit le lien qu'il y a entre vous, parce que vous finissez par comprendre comment l'autre fonctionne.
Ma sœur n'a jamais pu me mentir, je n'ai jamais pu lui mentir. Et puis nous avons développé à une époque, quand on était toute petite, ce qu'on appelle un langage ésotérique, c'est-à-dire des mots que nous seuls comprenions. Ça c'est quand on était toute petite. Et mes parents étaient un peu perdus parce que voilà, il y a ce langage qu'on se crée pour refermer la bulle et c'est très attention. Il faut être attentif à justement ne pas faire en sorte que les jumelles ou les jumeaux se maintiennent dans cette bulle. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que quand je suis jeune, c'est la toute puissance. On est deux. C'est deux chevaux galop lancés, mais à fond, quoi. Personne ne peut nous arrêter. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a des personnes qui nous trouvent un peu arrogantes et ils ont raison.
J'imagine bien. Comment se passent tes études ?
Alors après, quand vient l'adolescence, on se transforme en fille. Hein. Elle et moi, c'est talons, mini-jupe, vraiment, c'est la revanche. Le garçon, il est loin.
C'est l'occasion de prendre la revanche sur votre père aussi, qui vous appelait les gars.
Ah mais nous, on adorait. On adorait, puisqu'on était garçons dans notre tête, donc on adorait. Et puis on a compris qu'il faut être fille pour plaire aux garçons. Donc voilà. Donc, et puis il y a même une petite compétition entre ma sœur et moi et tout. Donc c'est drôle.
Étonnant.
Ouais, voilà. On s'amuse dès qu'il y a un copain qui dit je me tromperai jamais. Bon, bah, on va faire en sorte qu'il se trompe, bien sûr. Mais comme on est très, on fait attention quand même. On n'est pas prêteuse. Donc ça s'arrête toujours juste avant que l'autre fasse un bisou sur les joues. Ah, mais ça s'arrête? Non, Natacha, c'est bon, il s'est planté. Tu peux revenir. Voilà, donc ça, on l'a fait souvent. Et puis, bon, les études, ça se passe bien, mais comment dire, ça se passe bien jusqu'au moment où il faut apprendre, en fait. Et je suis, assez, on va dire, assez vive, mais quand il faut apprendre, et apprendre notamment des matières qui ne m'intéressent pas, bon, bah, c'est un, quoi. C'est un au bac, un pour pas avoir zéro. Voilà. Et sinon, en sciences nat, on l'appelait ça comme ça, la biologie à l'époque, eh ben, j'ai 19. Voilà. Donc, tout ce que j'aime, c'est à fond. Et tout ce que j'aime pas, c'est pas du tout.
J'aime pas du tout à fond aussi.
Voilà, c'est exactement.
C'est pareil. L'intensité est totale. Mais donc, tu réussis quand même à avoir ton bac ?
Oui, j'ai mon bac.
Avec des notes aussi.
Ah, mais pile, j'ai eu mon bac avec. Comme je suis à fond sur les matières qui me plaisent et pas du tout sur celles qui ne me plaisent pas, j'ai mon bac de zéro. C'est-à-dire, je ne sais pas combien s'il fallait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, 450 points ou 400, voilà, 80 points, je ne sais plus. Eh bien, j'ai 480 points. Voilà. Pas plus. Le strict minimum. Voilà.
T'as fait un bac S, j'imagine. Donc, voilà,
j'ai fait un
bac C.
Bac C, voilà.
À l'époque.
Ouais, voilà. Mathématiques et sciences de la nature.
Qu'est-ce que tu fais après ?
Après ce bac ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 9 ans, mon père me dit, ça y est, le dernier rhinocéros noir s'est éteint. Et là, c'est un cap. Je reviens un petit peu sur ce moment-là parce que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Et je vois exactement où j'étais quand mon père me le dit. Il vient d'entendre ça à la radio. Alors, c'est faux parce qu'on va en retrouver d'autres. Mais à l'époque, je pense que c'est terminé. Et je me dis, mais comment est-ce possible ? Comment le troisième plus gros mammifère du monde peut s'éteindre ? Et c'est un effondrement à l'intérieur de moi. Et à partir de ce jour-là, je me dis, faut que j'empêche. Les autres, ça me donne l'émotion. Il faut que j'empêche il faut que je puisse faire en sorte que les plus gros mammifères arrêtent de s'éteindre. C'est pas possible. Et ouais, je suis vraiment, j'ai de l'émotion parce que c'est terrifiant pour moi. Et à partir de ce moment-là, naît à l'intérieur de moi cette envie de vraiment sauver le monde. C'est ma mission, quoi. Enfin, ça paraît débile de dire ça comme ça, mais à l'âge de 9 ans, je me dis, il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive absolument. Et je me dis, est-ce que c'est créer une association ? Et je vois, je m'intéresse à tout ce que les gens font. Et je vois que c'est dur et que c'est galère et que c'est pas évident. Et en même temps, je suis passionnée par les médias. Et je comprends que ce sont des accélérateurs de vie. Et je me dis, bah, je vais tout faire pour promouvoir ceux qui font déjà ce travail. Et donc, quand j'ai mon bac, je me dis, bah, là maintenant, je vais faire en sorte, je veux devenir en fait, est-ce que tu te rappelles de Diane Fossé dans
ouais.
Voilà, Gorille dans la brune ouais. Eh bien voilà, je veux rencontrer Diane Fossé, je veux rencontrer, je veux être la Sigourney Weaver qui va sur les places, sur les traces de Diane Fossé qui sauvait les gorilles, voilà, au Rwanda, en Ouganda, etc., bon, en Afrique. Et donc, comme j'habite à Bordeaux, comme je peux pas faire d'école de réalisation, je sais pas s'il en existe à l'époque ou quoi, je me dis, c'est la publicité. Et donc, je vais faire un BTS publicité et communication, ou communication et publicité, je sais plus. Et pour me dire, bon, bah, la publicité va m'amener au journalisme, le journalisme à la télé au documentaire aux personnes qui, bon, qui veulent sauver les espèces en danger. Tu vois, je pense que ça va aller vite et en fait, c'est pas vraiment le cas.
Ouais, mais t'as personne autour de toi qui peut t'aiguiller, qui peut venir te dire. Donc c'est ta façon à toi à l'époque, il n'y a pas Internet, de te dire, bah ok, c'est la meilleure façon d'y arriver. Quoi.
Et je vais mettre 12 ans, mais je vais y arriver. Et personne n'y croit plus. Tout le monde me dit, mais Natacha, elle est pleine de rêves, mais elle n'y arrivera jamais. Et ça, moi, je suis comme un bulldog, j'ai le truc entre les dents, je ne lâche pas. Et je me dis, si je vais y arriver, si je vais y arriver, si je vais y arriver. Et donc, je fais ces BTS publicité et communication. Juste après, je monte à Paris. Et puis, je rentre dans la pub. Là, je rentre à François. Je m'occupe de la vente des espaces publicitaires à François. Et puis, j'apprends que Nicolas Hulot monte avec VSD, VSD Nature. Et je me dis, waouh, génial. Pub et nature, excellent. Je postule. La fille. Et au moment où je postule, d'ailleurs, je rentre dans les locaux de VSD. Et je me vois y travailler. Et la fille qui me reçoit, Sophie Gauss, elle me dit « Non, je suis désolée, on n'a pas de place, on ne vous prend pas. » Et je me dis « Mais je me suis vue. Comment c'est possible ?» Et 6 mois après, elle me rappelle en me disant « On a une place, on vous prend. » Bon, donc je vais travailler à VSD Nature, je vais faire la connaissance de Nicolas Hulot qui va m'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je vais commencer à écrire. Parce qu'en fait, pendant que je bosse, comme je suis une grosse, grosse bosseuse, dès que je bosse plus sur le côté commercial, la vente d'espace publicitaire, je lis. Et tout sur la nature, sur l'environnement. Je deviens environnementaliste et vraiment, mais autodidacte pur. Et je lis, mais je n'arrête pas.
Parce que j'allais te dire, ça doit être un gros fossé quand même entre l'idée de sauver le monde et de te retrouver à vendre des espaces publicitaires pour des journaux. Dans ton idée à la base qui est je vais aider à faire connaître Diane Fossé, quoi.
Voilà. Mais ça, je le dis à personne. C'est à l'intérieur de moi, comme un caillou précieux qui est peut-être un caillou qui est entouré de quelque chose qui je dois défaire pour pouvoir le laisser briller. Et j'en parle à personne. Et les gens sentent un peu cette rage. Et ils se disent, Natacha, elle est arriviste, elle veut devenir commerciale, elle veut être directrice commerciale. Pas du tout, ils se trompent tous. Je les laisse, je leur dis rien. Moi, j'ai ma mission. Je commence à écrire et à proposer des sujets à des mensuels. Ça n'existe plus. Il y avait Quo, FHM, il y avait Maximal, il y avait plein de magazines comme ça. Et je propose des sujets environnementaux. Et comme je m'ultra-documente, je ne sais pas encore écrire, mais les sujets que j'apporte, mon premier sujet, je me souviens, c'était sur les plantes dépolluantes mises en avant par la NASA. C'est tellement original que les gens veulent le sujet et c'est les rédacteurs-chefs qui m'apprennent à écrire, en fait. Qui me disent, non, tourne ça comme ça, regarde ça, l'accroche au début, etc. Et donc, je vais apprendre à écrire grâce à l'intérêt des sujets que j'apporte. Et ça va être fantastique. Donc ça, c'est VSD. Et là, VSD, je commence à m'essouffler. Et je me dis, mais... Ok, je suis VSD nature, il y a de la nature. Ok, je suis journaliste par ailleurs, un petit peu pigiste. Mais je me dis, purée, mais je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver. Et mon premier mari à l'époque, veut revenir à Bordeaux. Et je dis, bon, on revient à Bordeaux. Et je me vois en train de cultiver des carottes et je me dis, c'est fini. Les gorilles, c'est fini. Et puis, je propose à Jean-Dominique Siegel de VSD, je lui dis, si tu veux, je vends les espaces commerciaux de VSD, mais du Nouvel Obs, de Téléstar, etc., à Bordeaux, sur tout le sud-ouest. Il me dit, ouais, génial, super et tout. Bah, tu signes ton contrat vendredi. Vendredi à 5h, on te prépare ton contrat, tu pars. Donc, je vais pour partir. Ça, c'est une semaine qui a marqué ma vie de dingue. Le lundi matin, Nicolas Hulot m'appelle et il me dit, il rentre de d'Amazonie. Et puis il me dit, Natacha, il faut que tu lises un livre absolument. Ça s'appelle L'alchimiste de Paulo Coelho. J'ai dit, bah, tu pourrais me l'offrir si c'est super bien. Il me dit, non, il faut que tu l'achètes toi et puis que tu le lises et que tu le gardes, etc. Bon, alors je vais m'acheter L'Alchimiste. Et ce livre dit, il parle de la pluie de signes et qu'on a tous un destin personnel. Et là, c'est quelque chose de... Je me reconnecte avec l'envie, avec le rêve. Et je me dis, et si c'était possible? Et j'ai une amie qui vient et elle me dit, elle rentre d'Inde, elle me dit, est-ce que je peux venir te voir et tout? Et je dis, oui, elle arrive avec ses deux gamins et elle me met la tête à l'envers. Et je me dis, mais je ne suis pas prête pour avoir des enfants. Le lendemain, j'ai ma sœur jumelle qui m'appelle et qui me dit, tu vois, maintenant que je sais que tu rentres à Bordeaux, je peux te le dire, je ne pensais jamais que tu reviendrais à Bordeaux. Je me dis, purée, ma sœur jumelle, elle me connaît quand même. Et tout comme ça, toute la semaine, non-stop. J'ai une fille qui travaille, parce que je suis directrice commerciale, j'ai monté des échelons, qui travaille pour moi et qui me dit, Natacha, j'ai quelque chose à te dire, il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Je lui dis, bah, qui me le dise, qui m'appelle. Il me dit, non, mais c'est un truc un peu particulier, c'est quelqu'un qui est mort. Pardon ? Elle me dit, oui, il y a quelqu'un de ta famille qui veut te donner un message. Voilà, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Je vais la voir. Et puis, elle me dit, tu as des chaînes à tes pieds et ça t'empêche de faire ce qu'il faut et ce pourquoi tu es venu sur cette planète, quoi. Et tout comme ça, en fait. Et là, je pleure. Et je me dis, bah ouais, il faut que je me relie à ce rêve que j'avais en moi. Et le vendredi à 5h, où je dois venir signer mon contrat, bah j'y vais pas. Je reste derrière mon bureau. Et à 18h, il y a un coup de fil. Et c'est un chasseur de tête. Et il me dit, Natacha, on voudrait vous embaucher à France Télévisions. En fait, la télévision est venue à moi au moment où je commence à lâcher prise parce que j'en peux plus. Et je me dis, je ne vais pas y arriver. Et donc, je vais partir, parce que j'ai d'excellents résultats, en fait, en tant que commercial. Et je vais arriver à France Télévisions, comme ça, à la télévision, toujours dans le côté commercial.
Par la pub.
Et voilà. Et donc, là, je vais proposer à Louis Berriot, qui à l'époque est directeur d'antenne, et il avait créé la France défigurée, donc il était très sensible à l'environnement, de faire des programmes courts, le truc n'existe pas. Environne-moi, ça s'appelle. Et c'est donner la parole à des personnalités connues. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, que fais-tu pour l'environnement? Je vais faire...
Mais c'était quand, ça, pour resituer un petit peu, parce que
ça, c'est en 96.
Personne parle de l'environnement à l'époque.
Personne parle de l'environnement, personne parle des programmes courts.
Oui.
Personne. Et donc, c'est des petits programmes d'une minute. Et en fait, je réalise que à France Télévisions, même le balayeur, il a envie de faire la télé. Et mes chefs commerciaux, ça fait un an que je suis là, j'explose les chiffres au niveau commercial, mais je suis déjà en train de faire des programmes courts, c'est insupportable. Je suis virée.
Quoi ?
Ouais, je suis licenciée. Je suis licenciée sous le prétexte que je fais autre chose que mon boulot de commercial. Alors que j'ai multiplié le chiffre d'affaires de comment ça s'appelle, du parrainage par 10 à l'époque en un an. Donc bon, pour moi, je suis intouchable. Bah non, mais je fais peur à tout le monde en fait, je ne m'en rends pas compte.
Okay.
Donc je suis licenciée. Et donc,
parce que tu fais de la télé. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu t'es mis le nez dans les programmes, quoi.
Ouais, c'est insupportable pour tout le monde.
Okay.
Et puis aussi que je fais peur et que les gens se disent, ma chef directe me dit, enfin je l'ai compris après, elle veut ma place, mais moi non, moi, et en fait c'est le plus beau service qu'elle va me rendre. Michel Drucker va me dire cette chose là, parce qu'à l'époque ils sont tous là-bas, de Chavannes, Drucker, Nagui, ils sont tous là, sur France Télévisions. Et Michel Drucker me dit, qui est très sensible à l'environnement aussi, hein, il me dit, Natacha, c'est le coup de pied aux fesses qu'il vous fallait pour enfin faire ce que vous voulez. Je vous donne 2 ans. Bon, il va m'en falloir 3. Il va en falloir 3. Et je vais apprendre tous les métiers autour de la réalisation. Je vais commencer par le jeu. Je vais travailler, voilà, il y a un réalisateur qui va me proposer d'être auteur pour les jeux de France Télévisions et TF1. Et je vais faire ça. Et c'est la petite porte qui m'amène ensuite au documentaire. Et alors que, voilà, je gagne très bien ma vie, je décide de tout arrêter en me disant, maintenant, j'apprends le documentaire. Et je gagne pas ma vie, je mange pas ma faim, je suis maigre comme un clou. J'ai un fils qui est tout petit, je viens de divorcer. Et,
oui, parce que suite à ta décision, j'imagine que votre couple s'est séparé.
Il y a un problème, ouais. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que lui, il veut revenir à Bordeaux, et puis moi, j'ai dit bah non. Et donc là, le problème arrive, on va divorcer quelques temps après, mais forcément, il y a un impact. Et comment dire, mais bon, on va dire que c'était pas ça non plus, il y avait d'autres choses qui allaient pas. Hein.
C'est toujours des prétextes.
Ouais, voilà, après, voilà, bon, peu importe, c'est tellement loin. Et mon fils, c'est lui qui me relie, en fait, et je me dis, à la nature, et je me dis, j'ai envie qu'il voit en vrai les éléphants. J'ai envie qu'ils sentent, voilà, cette proximité avec la vie sauvage. Et donc, c'est grâce à lui que je me relie encore plus à mon rêve et que je décide, même si je suis à zéro financièrement, que j'ai pas de légitimité dans le documentaire, que je vais y aller coûte que coûte et que tout le monde dans ma famille me dit, mais tu es folle, ne lâche pas les jeux, au moins comme ça tu gagnes bien ta vie. Et je dis non, dans la France aujourd'hui, on a les étiquettes, si je suis jeu, je reste madame jeu. Donc terminé, je ne veux pas, je suis documentariste maintenant. Voilà.
Comment, c'est quoi l'étape d'après alors?
L'étape d'après, bah, c'est-à-dire que bah, je suis dans les jeux. Le déclic, en fait, c'est que je suis dans les jeux et il y a tout d'un coup, un jour, une fille qui dit « Est-ce que quelqu'un est documentaliste ?» Donc, qui fait de la documentation. Donc moi, tout ce qui peut me sortir de... Moi, je suis documentaliste. Bon, très bien, il y a une telle qui t'appelle pour faire de la documentation, etc. Je sais pas ce que c'est, j'appelle des documentalistes. C'est quoi de documentaliste?
Mais bon. Tu fais ça aussi, c'est-à-dire que tu saisis des perches comme ça en disant je sais pas ce que c'est comme perche, mais j'y vais.
Et comme j'ai un sens commercial assez fort, puisque c'est le début de ma vie, j'ai appris à faire ça, ben, en fait, j'ai une façon de proposer les choses qui n'est pas conventionnelle, et du coup, j'ai des résultats assez bons. Et puis. Et donc, je vais apprendre la documentation, puis assistante de production, et puis adjoint au producteur, et puis ensuite assistante à la réalisation. Et puis, voilà, je vais à un moment donné, en tant que documentaliste, il y a Bernard Majani, qui à l'époque, patron de M6 International et directeur de Pathé France. Et en tant que... Je le sollicite pour Pathé au niveau des archives de Pathé et du cinéma Pathé. Bon. Et
pas le sandwich au Pathé, on est d'accord.
Oh là, avec un H.
Voilà. Et donc, comment dirais-je, j'appelle le gars, Merlin Majani, et je lui explique que, en fait, ces archives, il ne faut pas me les vendre parce qu'en fait, c'est un honneur de passer dans l'émission et qu'il faut qu'il me les file gratuitement. Enfin, j'y vais à fond, quoi. Il m'écoute, il me dit « Ok, bah, je voulais aller les avoir gratuitement, mais il y a un truc que je voudrais savoir, c'est que vous n'avez pas du tout le discours des documentalistes. Moi, je voudrais savoir qui êtes-vous, qui vous êtes. Rendez-vous demain matin, 10h dans mon bureau. » J'y vais, je lui explique et je lui parle. Que j'ai un rêve, c'est de réaliser une série documentaire, Les héros de la nature, depuis que j'ai 18 ans, et que c'est la mise en valeur des espèces, enfin des gens qui protègent les espèces en danger. Et il me dit, mais moi, votre projet, je le trouve génial. Vous arrêtez votre métier de documentaliste, vous êtes embauché à M6, je ne sais pas encore pourquoi, parce que je pars à Los Angeles tout à l'heure. Vous restez 2 jours le temps que je revienne, d'ici 2 jours, vous devrez trouver une idée. Mais vous êtes embauché à partir d'aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée dans les bureaux d'M6 à rien faire, à écouter, à regarder les gens, juste en attendant qu'ils reviennent de Los Angeles, en me disant « histoire de fou ». Puis il revient, il me dit « écoutez, on a des documentaires qui n'ont pas marché à l'antenne, qu'on vend à l'international, il faut les reformater. Bah, vous avez carte blanche. Et il me dit, il y en a un, on s'est gamellé, c'est sur la corrida, on a fait 0,1% de part de marché ou je sais plus quoi. Vous avez carte blanche. Et là, c'est fabuleux, parce qu'il me donne un vrai coup de pouce, c'est que ça me permet de travailler avec les images des autres, avec la réalisation d'un autre, et de comprendre en fait l'intention de réalisation. Donc je vais aller voir les réalisateurs, je vais prendre un monteur, très bon monteur, Joseph Aneco, et puis d'autres, voilà. Et je réécris le texte, et je réécris. Et alors mon monteur me dit, mais on ne peut pas refaire tout un film. Et je lui dis, écoute, c'est la mission qu'on m'a fixée. Donc si, on va refaire totalement. On refait. Je montre le film à Bernard Magiani. Il me dit, ça me plaît, maintenant tu vas le montrer à Tony Comiti, qui est quand même la pointure dans la production, et c'est lui qui avait produit le film. Et Tony Comiti regarde le film, et puis à la fin il me dit, c'est bien, on voit pas les coupes. Bon, c'était un compliment, hein, venant de Tony Comiti. C'est bien, on voit pas les coupes. Et de ce jour-là, j'ai été embauchée chez M6 pour reformater en fait les documentaires pour l'international, parce que aux États-Unis, tous les documentaires ne doivent pas dépasser 42 minutes, alors que nous c'est 52. Donc j'ai beaucoup appris, et une fois que ça a été fini, ça, je me suis dit, ben là je me sens prête. Il y a juste quelque chose que je sais pas faire, c'est la technique de l'interview. Et puis l'écriture des commentaires pour le documentaire. Et là, je me renseigne et je tombe sur deux formations au CFPJ, Centre Formation de Perfectionnement des Journalistes. Et je vais voir la responsable et je dis, voilà, je suis journaliste, je montre tous les écrits que je fais pour la presse écrite. Je veux lancer tel projet, Les Héros de la Nature, pour la télévision. Il me manque ces deux formations. Mais moi, si je vais être prise en charge par la structure, l'AFDAS, bon, mais pour un seul stage, pas pour les deux. Et là, elle me dit un truc incroyable. Elle me dit, votre projet, il est génial. Elle a découpé la première formation, découpé la deuxième formation, tout posé sur une première page, mis le montant total. Elle a fait un faux, quoi. Et j'ai eu une formation pour ces deux formations, grâce à une fille qui a compris mon projet et qui a voulu m'aider.
Wow.
C'est beau.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc j'ai fait cette formation, et une fois que terminée, là je me suis sentie prête. Et au lieu d'apporter mon projet à un producteur en disant, est-ce que vous le trouvez bien, est-ce que c'est... Bah, toujours le sens commercial, je me suis dit, non, c'est mon projet, il est bien. Ils vont se battre pour l'avoir. Donc je suis allée voir Thierry Béraud à Mona Lisa Productions, qui était le top des documentaires primés aux États-Unis, et notamment il avait eu le Panda d'Or en Angleterre, qui est le top du prix. Donc ils sont à Lyon. Et puis je suis aussi allée voir Kappa TV et Chabalier, comment il s'appelle, ouais, je me rappelle plus son prénom, bon, enfin Chabalier, André Hervé Chabalier. Et je leur ai dit, mon projet il est super, vous allez vous battre pour l'avoir. Et donc tous les deux se sont mis à me dire, bah, nous on va faire tel comme ça, on fera tel générique, etc. Et j'ai pris Mona Lisa parce qu'ils avaient plus d'ambition, et c'est comme ça que je suis devenue réalisatrice des Héros de la Nature, qui a été diffusé sur France 3 d'abord, puis sur France 3 et France 5, puis sur France 5, et puis dans une quinzaine de pays dans le monde.
12 ans donc.
Voilà, j'ai commencé, j'avais 30 ans, je crois, attends. 30 ans, 12, ouais, c'est ça.
Depuis t'as 18.
18, voilà.
Et enfin, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait, quand tu arrives à ce truc où tu traînes cette histoire, en tout cas tu la portes depuis tes 18 ans, et que ça finit par arriver?
Bah, c'est le bonheur total. C'est le bonheur total. Non, c'est, j'ai 32 ans, non, voilà, c'est 20, 32, ouais, c'est 32, j'ai 32 ans. C'est le bonheur total, c'est je vais plus apprendre en rencontrant les baleines, les guépards, les hippopotames, qu'en rencontrant bien des personnalités et d'autres gens. Je vais apprendre qui je suis, je vais apprendre comment disparaître dans la nature pour se faire accepter par le monde animalier. Je vais apprendre à rentrer en vibration avec le monde pour laisser mon intuition décupler. Je vais apprendre à devenir qui je suis vraiment. Et je vais prendre le pouls du monde à ce moment-là. Et je vais le prendre auprès des animaux, mais aussi des végétaux. Ça, c'était très étonnant. J'ai des vraies rencontres avec des arbres que j'en serre dans mes bras et que, voilà, je en pleurant parce que ils sont tellement gros, ils ont vu tellement de choses que je ressens tout ce qu'ils ont vécu. Et je vais apprendre à sentir, voilà, cette vibration. La chose incroyable, en fait, c'est que, à l'époque, j'ai toujours un peu des intuitions, mais en fait, ces contacts-là vont les décupler. Et je vais à un moment donné partir pour Magazine Géo faire un reportage pour sur les chamans Shipibo du Pérou autour des plantes maîtresses, comme ils les appellent, les plantes enseignantes. Et ça va finir un peu quelque part de décupler mes intuitions. Et je ne m'en rends pas compte tout de suite, en fait. C'est Thierry Béraud de Mona Lisa qui me dit « Natacha, c'est quand même bizarre. Chaque fois que tu t'intéresses à un projet, il devient un grand truc, un énorme après. » Par exemple, je suis en train de lire un article scientifique du chercheur, il s'appelle Heinrich Katz, et ce chercheur a montré qu'en fait, il y avait eu une transmission entre le monde végétal, un plan OGM de maïs, et l'animal, l'abeille, c'est-à-dire qu'il y avait un plan OGM où le côté génétique modifié avait été modifié aussi dans l'abeille par le biais d'une bactérie qui s'était transmise dans son estomac. Et normalement, que quelque chose soit transmis du monde végétal vers le monde animal, il faut des centaines de millions d'années. Là, en un an, ça avait été fait. Donc, c'est ébouriffant. Et en lisant cet article, j'ai l'image, tout d'un coup, de milliers d'abeilles qui meurent à travers le monde. Et je me dis, mais je vais écrire un roman futuriste sur une hécatombe d'abeilles. Et je commence à me renseigner et à prendre contact avec des chercheurs du monde entier, États-Unis, Suisse, Italie, Allemagne, France, le CNRS, l'INRA, etc. Et 11 mois plus tard, il y a là l'hécatombe de 2007, octobre 2007, hécatombe mondiale des abeilles à travers le monde, 2 pages dans les échos, enfin, il y a un impact sur l'économie, et je suis prête. Donc je vais être la première à proposer un film, c'est « Mortalité des abeilles, la fin d'un mystère », et du coup, mon roman futuriste, c'est plus un roman futuriste, je le réécris, et ça va devenir « Le testament des abeilles » qui est un polar. Parce que j'adore par ailleurs les polars, et donc je me dis tiens, parce qu'en fait juste avant j'ai écrit Les héros de la nature chez Robert Laffont sur mes aventures, où de temps en temps je côtoie la mort avec les orang-outans, avec les dayaks ou peurs de tête, enfin des choses assez dures et puis assez belles aussi. Mais je me rends compte que finalement les héros de la nature, ceux qui achètent le livre, c'est uniquement ceux qui sont convaincus. Ouais. Donc comment je fais? Et par rapport à ta question, tu vois, tout à l'heure où tu me disais, mais le journaliste et le côté sauver le monde, c'est que toujours, en fait, je me dis, mais comment je fais pour faire en sorte que les gens soient, ceux qui ne s'intéressent pas à la nature, puissent s'ouvrir à ce message? Et je me dis, le polar, il y a un bon moyen, les gens vont avoir une intrigue et finalement, ils vont apprendre des choses.
C'est malin, tu leur infuses des idées comme ça.
Voilà.
Petite inception.
Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, je vais, comme moi j'aime toujours m'ultra-documenter, je vais prendre contact avec un major de la police judiciaire Et je lui dis comment est-ce qu'on peut faire pour que je vois comment ça se passe et tout. Il me dit, écoute, si je demande, si je te présente en tant que journaliste, ils ne nous donneront pas l'accord. Si je dis que tu es écrivain, on va la voir, mais dans 6 mois. Et il me dit, tu es la meilleure amie de ma femme. Je dis, ok. Et donc, je rentre à la PJ, je vais m'aller au 36 Quai des Orfèvres, je vais tout visiter, je vais m'installer avec un petit cahier, je vais prendre des notes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de policiers, ou même de pompiers, enfin les gens de ce corps, de gendarmes, etc., qui me disent, on a l'impression d'être à la maison. J'ai vraiment fait attention d'écrire avec le langage, les surnoms, etc., de coller à ça. Donc voilà, j'écris le Testament des abeilles, qui est mon premier roman policier. Et ça, c'est génial. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question? C'est comment...
Comment t'en es arrivé à...
Ah oui, voilà, donc bon. Et donc, les romans, voilà. Ah oui, non, c'était par rapport à Thierry Béraud qui me dit, ouais, les abeilles.
Ouais.
Donc, hop, et le truc devient, 11 mois plus tard, grande hécatombe. Après, je vais m'intéresser à l'autisme. Je vais faire un film « Autisme, l'espoir ». Ça devient grande cause nationale 2 mois plus tard. Je vais m'intéresser au harcèlement conjugal et au harcèlement tout court. Et je remets mon manuscrit, je crois que c'est en juin 2016. Et en septembre 2016, il y a l'affaire Weinstein. Une de mes armes du crime, je ne vais pas dire ce que c'est, est un truc... Non, mais enfin, je peux pas dire. Enfin, voilà, je peux pas spoiler. Et puis, plus tard, on se rend compte qu'effectivement, ça peut vraiment, alors que c'est pas du tout une arme du crime. Et donc, enfin, il y a toujours des grands effets d'annonce, entre 2 mois, 6 mois, 11 mois après que je me sois intéressée à des sujets qui ne sont pas d'envergure. Par exemple, tu vois, il y a un moment donné, je vois un contre-filet dans Le Monde, au sujet de la maladie de la catarrhale du mouton. C'est la maladie de la langue bleue, c'est-à-dire qu'en fait, un mouton, une vache, n'importe quoi, enfin voilà, un ovin ou un bovin, attrape une fièvre, il a la langue bleue, 24 heures après, il est mort, à cause d'un petit moucheron. Bon. Et je vois un contre-filet où ils disent « Premier cas de maladie catarrhale du mouton » je ne sais pas, en Norvège, alors que c'est quelque chose qui arrive normalement, qui ne dépasse pas le Maroc, tu vois, c'est pays chaud. Et ça, je vois ça, je dis à mon mari, je dis, tu vois, ça nous pète à la gueule dans un an, ça va être grave. Et ben, 11 mois plus tard, à nouveau, énorme truc, en disant, 31 000 cas d'élevage, c'est pas cas, élevage, donc avec des centaines de bovins, en France, en Europe, partout, maladie catarrhale du mouton, obligé, c'était après la vache folle, obligé de tous les tuer. Et le gouvernement français a pris la décision de créer un vaccin contre la maladie catarrhale du mouton en 6 mois. Voilà, toute la viande que nous mangeons, il y a à l'intérieur un vaccin qui est injecté dans les bovins, les ovins. Qui n'a pas vraiment été testé, hein, 6 mois, et on mange cette viande-là tous les jours. Bon, j'ai écrit un papier là-dessus aussi, voilà. Et donc, je suis pas contre les vaccins. Hein.
Oui, j'allais te poser la question, mais je savais, enfin, en tant que scientifique, je partais du principe que
non, je suis pas contre les vaccins du tout. Mais il y a des choses qui et je suis pas contre la médecine du tout non plus, mais il y a des choses qui alertent un petit peu mon sens, on va dire, de la logique et de voilà. Après, chacun en fera ce qu'il veut.
Comment t'en viens alors à t'intéresser à l'énergie?
Voilà. Alors,
on y arrive.
On y arrive. Eh bien, en fait, je suis. Tout va bien pour moi. Je suis réalisatrice, je suis romancière. Et en 2011, j'ai toute ma vie qui s'écroule petit à petit. Et ça commence, j'ai un manuscrit qui m'est refusé. Mes films sont refusés. Je me retrouve au chômage. Sur le plan familial, mon ancienne vie, il se passe des choses. Du coup, bah, c'est très, très dur. Je pleure tous les jours. Je perds ma petite sœur. Je perds ma meilleure amie. Des suites de harcèlement conjugal. C'est donc suite à ce problème très grave que je vais m'intéresser au sujet, que je vais faire 2 ans de recherche sur la psychiatrie, la psychologie à ce sujet. Et puis... je finis, donc ça c'est une descente aux enfers qui dure 4 ans, et je me retrouve fin 2015 avec une double hernie discale, et le cheval de course dont je parlais au début, bah, il est immobilisé, et là je me dis mais je vais très très mal en fait, et je me rends pas compte que en fait je suis plutôt un gros bourrin, je me rends pas compte que tellement j'ai mal, j'ai ces œillères sur les yeux et je souffre, je suis au bord de la dépression, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et comme j'ai interviewé bah, des chamans, des guérisseurs, des médiums, et qui m'ont partagé toutes leurs techniques, leurs rituels chamaniques qui leur permettaient bah, d'aller mieux. Je me suis dit, bah, et si j'essayais ? J'ai plus rien à perdre.
Oui, tu ne tournes pas vers un, je sais pas, vers un ostéo, vers un...
Si,
si. T'as tout fait en fait, c'est ça que t'es en train de dire.
Voilà, c'est-à-dire que je vais voir un médecin qui me diagnostique la double hernie discale, qui me dit c'est sérieux, attention, il me donne un myorelaxant, il me donne des anti-inflammatoires, et la chance pour moi, c'est que ça passe pas. Je vais voir un acupuncteur pour faire recirculer l'énergie, etc. La chance pour moi, c'est que ça passe pas. Et je me dis, j'ai quelque chose à comprendre. Et c'est là où, en fait, je comprends que si, en fait, on est entouré par les virus, les bactéries, les microbes. Bon. S'il suffisait qu'ils soient là pour qu'on tombe malade, on serait tous malades tout le temps. Donc, pourquoi certains tombent malades et d'autres pas ? Et là, je me réfère à la médecine de pointe, la psychoneuro-immunologie, qui dit que le moindre stress provoque une chute de notre immunité, et c'est ce qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes, virus, bactéries, microbes. Bon, ok. Et là, je fais très vite le pont entre la double hernie discale et les mots d'une violence extrême d'une personne que j'aime, bon, qui m'est chère. Bon, alors, je me dis, ok, c'est émotionnel. Il va falloir que je creuse la question. Et je vais voir des psychothérapeutes, je fais une thérapie, etc. Ça marche pas. Il faut que la chance, c'est qu'en fait, tout ce qui est traditionnel me fait aller un peu mieux, que les choses soient dites. Et c'est important d'aller voir un médecin en premier lieu, parce qu'il faut éviter de souffrir si on veut travailler sur l'énergie. Donc, c'est la première étape, le médecin. Bon. Mais là, je me dis, je n'y arrive pas, il faut que je trouve une solution, j'ai plus rien à perdre. Et donc, je mets en pratique les rituels chamaniques qui m'ont été partagés, sans vraiment y croire. Je me dis, il faut vraiment être naïf pour se dire que des phrases dites comme ça, ça va tout résoudre, alors que les trucs bien plus balèzes ne marchent pas. Et ça marche. Je me guéris de la double hernie discale en 1 mois et demi. D'autres trucs vont prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, fin 2016, mon mari, qui me voit 10 fois plus d'énergie qu'avant et tout, me dit, il faut que tu partages. Et je me sens pas légitime, je dis c'est de la chance. Sauf qu'il me dit, mais une double hernie discale, c'est plus de la chance. Mais je veux pas l'entendre. Et je vais avoir des personnes de mon entourage qui vont me solliciter pour plein de choses, un problème de santé, une épreuve. Et je vais partager avec eux ces rituels. Ça va me donner confiance, je peux plus mettre ça derrière la chance. Et je vais proposer des ateliers. Et à ma grande surprise, des médecins, des psychiatres, des psychologues vont venir se former à ces rituels chamaniques que je vais transformer en protocole pour que ça soit plus simple. Et donc, ça va durer 3 ans. Je vais faire plus de 800 ateliers. Et fort de toutes ces expériences partagées, voilà, j'écris La clé de votre énergie, qui va devenir un best-seller juste par bouche à oreille, en fait. Juste parce que le livre, il sort quelques semaines avant le confinement. Et il n'y a pas de presse, pas de radio, rien. Oui. Voilà. Et donc, le succès vient tout simplement parce que les personnes qui se guérissent d'un problème de migraine, qui retrouvent d'un boulot, qui tombent amoureuses, alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles galèrent, eh bien, quand on est content, on en parle à 10 personnes autour de soi. on offre le bouquin. Donc, c'est non-stop et ça va crescendo. Et j'ai mon éditrice qui me dit, chaque fois qu'on fait un nouveau confinement, les ventes explosent. Les gens ont du temps, ils vont mal. Et ils ont dans un livre 10 ans de ma vie qui leur permet, je donne tout, je partage tout, tout ce qui leur permet de pouvoir être autonome, de faire les choses tout seul, dans leur baignoire s'ils veulent, à 2h du matin s'ils veulent, sans avoir besoin de quiconque. Donc c'est génial. Et là, je suis plus sur l'environnement, mais j'ai plus que jamais le sentiment d'aider.
Oui, t'es plus en train de sauver la planète, mais peut-être tu aides les gens à aller
voilà,
mieux.
Voilà, c'est-à-dire je leur donne, c'est pas moi qui fais, hein, mais je leur donne le moyen de retrouver leur énergie et de se libérer émotionnellement de casseroles, de choses qui les plombent, quoi. Et à la suite de ce succès, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de gens qui m'ont écrit, des milliers de personnes. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Trouver ma place ». Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que parfois, ça va plutôt bien dans son job, ça va plutôt bien dans son couple, on est plutôt bien chez soi, tout va plutôt pas mal. Mais à l'intérieur de soi, il y a un truc, quelque chose qui grince, quelque chose de la frustration, et on sent notre propre potentiel et on se dit mais quand est-ce que j'explose? Quand est-ce que je suis à ma juste place? Et très souvent, c'est en lien avec quelque chose de l'enfance où on n'a pas été regardé comme on l'aurait souhaité par son père ou sa mère. Peut-être on a été comparé avec son frère et sa sœur ou avec les voisins, tu vois. Et c'est toujours une question de place. Et j'ai parfois rencontré des gens qui avaient tout, sur le papier tout. Le succès, la super nana ou le super mec, tout. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas été regardés par leur père. Il y a cette fracture à l'intérieur, cette espèce de blessure qui fait que on se sent, malgré tout, il y a quelque chose qui est incomplet. Et donc, c'est pour ça que trouver ma place, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Tu vois, même quand on est sur la mauvaise file dans le supermarché, eh bien, tu vois, si on râle, symptomatiquement, ça veut dire j'ai un problème de place, tu vois. Si jamais on n'est pas reconnu dans notre profession à notre juste valeur, c'est un problème de place. Si on n'a pas envie, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau métier, c'est un problème de place. Si on se sent pas bien chez soi, c'est un problème de place. Si on a toujours peur de manquer d'argent, c'est encore une histoire de place par rapport à soi-même. J'ai peur de manquer. Par rapport à quoi ? C'est une histoire de place. Donc voilà, donc j'ai essayé dans ce livre, à travers 7 thèmes et énormément de cas et de situations, d'aider, de prendre vraiment par la main le lecteur pour lui permettre de comprendre le lien entre la blessure, enfin l'épreuve qu'il vit ou la chose qu'il voudrait améliorer et l'origine. Parce que si on trouve l'origine, on s'en libère. Je te donne un exemple. Est-ce que tu veux qu'on parle plutôt de place dans le travail, dans l'amour, dans la famille? Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce qui t'intéresse?
Non, toi, tu te choisis.
Dans l'amour, tiens.
L'amour, très bien. super. Alors, tu vois, c'est ce que j'avais préparé. Tu vois, j'avais
pensé,
ouais, l'amour. Alors, imaginons que on n'arrive pas à trouver l'amour, par exemple. Bon. Ou qu'on n'est pas, on soit pas bien dans son couple. Bon. Eh bien, on peut très bien se dire, mais moi, je comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut pour tomber amoureux ou pour que ça se passe bien. Mais je tombe toujours sur la même nana impossible à vivre. Ou bien toujours sur la même nana qui est pas disponible. Ou bien, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Tu vois, par exemple. Bon. Eh bien, à partir du moment où on se dit la phrase, je fais tout ce qu'il faut pour rencontrer l'amour ou avoir du travail ou peu importe, mais je n'y arrive pas. C'est un héritage transgénérationnel. C'est-à-dire que les épreuves qu'ont vécues nos parents, nos grands-parents, et ça c'est l'épigénétique qui le montre, eh bien, elles se reproduisent chez nous. Donc, scientifiquement, c'est prouvé par l'épigénétique. Sur le plan psychologique, on parle de transgénérationnel. Et donc, en fait, ces épreuves-là, il suffit simplement de s'en libérer pour pouvoir vivre mieux. Donc, sur le plan de l'amour, on va se poser la question. Est-ce que un membre de ta famille a vécu, je parle aux auditeurs, à toi aussi, mais bon voilà, un membre de votre famille a vécu une épreuve sur le plan amoureux ou sexuel, peut-être que tout simplement, si vous en avez hérité, eh bien, vous vous sentez, il y a quelque chose de l'ordre, l'amour rend triste ou l'amour est un danger. Tu vois, imaginons une mère qui a été abusée sexuellement à 18 ans, eh bien, ou un père. Il y a à l'intérieur de lui cette blessure, l'amour est dangereux. Il peut y avoir aussi le fait qu'on appelle, on appuie inconsciemment sur la pédale de frein parce que petit, on nous a dit et répété que il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Ou bien un père qui dirait à son fils, tu sais, toutes les femmes sont folles, elles sont dingues, barjots. Ou les mères disent à leur fille ou à leur fils, tous les hommes sont des traîtres et ils trompent leurs femmes. Bon, on a à l'intérieur de soi une espèce d'injonction parentale qui fait que il y a un schéma, ce qu'on appelle une croyance limitante qui est à l'intérieur de nous et qui nous bloque. Par exemple, toutes les personnes qui, avant nous, ont vécu des tromperies, un divorce, des colères, des séparations suite à la guerre, des violences morales ou physiques, un conjoint décédé, il est possible qu'elle nous ait inconsciemment en fait transmis que l'amour rend malheureux, triste et impossible à vivre. Et ceux qui ont aussi également, je le disais tout à l'heure, voilà, ont vécu une violence sexuelle, un attouchement, voilà. Et donc, toutes les épreuves, enfin, si nous-mêmes on a des problèmes par rapport à l'amour, on va chercher, est-ce que ma mère était heureuse en amour ? Pas vraiment. Ok, j'ai un protocole à faire avec elle. Est-ce que mon père était heureux en amour ? Vu qu'il a trompé ma mère, non, certainement pas. Donc, je vais faire un protocole avec elle, avec lui. Est-ce que ma grand-mère était heureuse en amour ? Oui, mais son mari est mort à la guerre. Donc, tu vois, donc elle a vécu seule. Et donc, finalement, l'amour à deux est impossible. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des fardeaux émotionnels dont on va pouvoir se libérer. Mais, donc ça c'est la première des choses, mais il peut y arriver aussi que si on a vécu des épreuves, on a perdu de l'énergie. Bon, ça je l'explique dans le livre, on ne va pas rentrer dans les détails, oui. Mais le fait de perdre de l'énergie, eh bien ça attire les personnes un peu, comment dire, manipulatrices, toxiques, etc., qui savent que comme on a cette béance en nous, ce trou finalement, ce gap d'énergie, elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur de nous pour mieux nous manipuler. Et donc, pour éviter de tomber sur des personnes qui nous font vivre tout et n'importe quoi et qui font qu'on est perdu et qu'on perd de l'énergie, eh bien, c'est important de refermer cette blessure. Et ça, c'est le protocole 6 qui permet de, voilà, qui a un reset énergétique.
Donc, tu as transformé tous ces enseignements que les chamans ont pu te donner, te transmettre en protocole, comme tu dis.
Voilà.
C'est intéressant aussi parce que, comme je disais au tout début de l'interview, tu fais aussi le lien avec des recherches psychiatriques, psychologiques. Notamment, tu parles de vampirisation
inconsciente. Complètement.
Qui est un
terme psychiatrique utilisé par Marie-France Irigoyen, psychiatre et spécialiste du harcèlement et des relations toxiques. Complètement. En fait, notre corps, il est constitué de simplement 0,01% de matière, le noyau. Et le noyau de chaque atome, en fait, c'est notre corps, c'est des milliards de milliards d'atomes. Et chaque atome, c'est 0,01% de matière, c'est tout. Tout le reste, c'est de l'énergie de l'information. C'est-à-dire, ce sont les électrons, le nuage électronique qui entoure le noyau, eh bien, ils sont mus par une énergie et ils vont dans un sens grâce à une information. Voilà. Donc on est constitué de 99,99% d'énergie et d'information. Et donc une épreuve, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose c'est de l'information douloureuse, dit avec une certaine énergie, une certaine violence, d'accord ? Donc c'est pour ça que ça touche 99% de ce qui nous constitue. Et c'est pour ça que dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et si cette épreuve, elle nous est fait vivre par quelqu'un qui nous déstabilise à répétition, il y a effectivement vol d'énergie. Et c'est ce que, effectivement, tu as expliqué, tu as précisé, voilà, cette vampirisation inconsciente. Et cette énergie, il faut la récupérer. Et donc ça, c'est extrêmement important de commencer quand on travaille sur l'énergétique. On fait les choses, si on a un problème de santé, on l'a dit, on va voir un médecin, ça c'est la base. Et après, pour éviter que le problème ne revienne, eh bien, on va travailler sur je récupère mon énergie en premier lieu. Parce que une fois que je suis entier, je suis plus fort, je récupère cette énergie qui m'a fait défaut. Et une fois que j'ai récupéré toute mon énergie, eh bien, je vais chercher sur le plan transgénérationnel, sur mes parents, mes grands-parents, ça peut être les oncles et tantes, ça peut être les arrière-grands-parents. Dès qu'on a une information sur notre famille, elle n'est pas là pour rien. Et en se libérant des fardeaux émotionnels, ça va vraiment mieux. Moi, là, ça, il y a des fulgurances. Hein. Moi, ce protocole, alors, le 7, se libérer des liens de souffrance, je l'ai fait avec ma grand-mère, qui était invisible, et aujourd'hui, je suis invitée partout. Ça a changé ma vie.
Tu veux dire que c'est toi-même un chemin que tu as arpenté ?
C'est-à-dire que moi, je suis invisible dans ma vie. Malgré tout ce que j'ai fait, en tant que réalisatrice, romancière, journaliste, on pourrait dire, enfin moi, je trouvais légitime que je sois invitée un peu partout. Rien. Rien. Rien de rien. Je n'arrive à rien, on ne me voit pas, je suis invisible. Et je réalise que ma grand-mère, elle était aussi invisible. Et pas qu'elle. Mon père était... son frère lui faisait de l'ombre. Ma mère, sa sœur lui faisait de l'ombre. Mon oncle n'a jamais trouvé sa place sur le plan, comment dire, du succès, parce qu'il était un grand chanteur à l'opéra. Il aurait pu avoir tellement plus de succès. Donc j'ai cherché toutes les personnes qui soit ont été dans l'ombre, soit qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Voilà. Et j'ai fait un protocole 7 avec elle. Le 6 avec mes parents, j'explique pourquoi je ne vais pas rentrer dans l'ordre. En tout cas, l'un, c'est nettoyage des liens de souffrance. L'autre, c'est récupérer l'énergie et puis nettoyer les liens de souffrance en même temps. En tout cas, c'est des libérations émotionnelles. Et là, ma vie a changé. Les gens n'ont pas changé, les journalistes n'ont pas changé. Moi, je n'ai pas changé. Je me suis juste libérée de boulets, de choses qui ne m'appartenaient pas. Et c'est ça qui est génial, Fabrice. C'est qu'en fait, les gens culpabilisent souvent. Ils se disent, mais je suis nul, j'y arrive pas. Pourquoi ? Pourquoi j'arrive pas à ça ? Eh bien, quand on comprend que c'est finalement pas qu'on est nul, mais que c'est quelque chose dont on peut se libérer, eh bien, c'est génial. Et c'est pour ça que dans Trouver ma place, je commence le bouquin sur un bilan. Mes épreuves, les épreuves de mes parents, pour pouvoir voir les liens, les cycles qui se rejouent.
Ça nécessite d'aller creuser un peu dans l'histoire familiale si tu ne l'as pas, et c'est sûr que c'est... De toute façon, je trouve que ce travail-là, il est intéressant à faire.
Ouais, il est intéressant. Il est très intéressant. Et on est plus fort quand... Là, j'ai finir ma phrase. On est plus fort quand on est en accord avec l'énergie que quelque part nous ont transmis nos parents. Et très souvent, on leur en veut à nos parents parce qu'ils nous ont fait vivre des choses difficiles. Mais quand on commence ce travail sur le plan de l'énergie et surtout de la libération émotionnelle, eh bien, le pardon, il vient un peu à l'intérieur de nous. Et j'ai un monsieur qui m'a écrit hier et qui m'a dit une chose... maintenant, je l'ai sur mon ordinateur. Qui m'a dit une chose assez très belle. Il m'a dit, j'ai fait le protocole 6+, le recouvrement d'âme, donc c'est un reset énergétique pour retrouver l'énergie, avec mes parents. Et je me suis en même temps libérée de leur fardeau émotionnel. Et il me dit, à la fin du protocole, j'ai compris que c'est moi, quelque part, en m'incarnant dans cette vie, qui avait choisi ses parents pour leur défaillance, pour leurs défauts, et que s'ils avaient agi comme ça avec moi, c'était par rapport à l'amour qu'ils avaient reçu et surtout l'amour qu'ils n'avaient pas reçu. Et qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient pu, du mieux qu'ils pouvaient. Que moi, j'ai aussi fait des erreurs avec mes propres enfants. Et il me dit, j'ai eu une bouffée d'amour pour eux que j'ai jamais eu. Et il me dit, je sais que je suis sur le chemin du pardon. Et pourtant, Dieu sait si je leur en ai voulu. Juste simplement de faire ça. Et il finit en disant, je me suis très très gravement disputée avec une amie qui a aujourd'hui une grave maladie. Je vais finir ce mail et aller l'appeler pour lui dire combien je l'aime. J'ai trouvé ça tellement beau. Tellement beau.
Et tout ça grâce à ton bouquin qui...
Alors, tout ça
comme quoi tu aides.
Tout ça grâce à lui, puisque si c'est sa démarche.
J'ai bien compris que ton intention n'était pas de devenir une gourou.
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent, j'ai acheté votre livre, je ne l'ai pas encore lu, je leur dis, écoutez-vous, quand c'est le bon moment, vous le saurez. Et il faut s'écouter. Il y a des fois, on se dit, ouais, ça me parle, mais on n'y va pas. Eh bien, c'est pas grave, c'est que ce n'est pas le bon moment. Parce que ces resets énergétiques, il faut bien imaginer qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conscience qui change. Donc il faut être prêt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire quand on veut, tout seul. On n'a pas besoin de rappeler l'ex en disant « Bon, en fait, tu sais, on s'est engueulé il y a 12 ans, je ne peux pas te voir, je te déteste, mais j'ai un protocole à faire, tu peux venir, s'il te plaît ?» Non. On le fait tout seul chez soi, tranquillou, quoi. Et c'est pour ça que ça marche aussi avec les personnes décédées. Encore mieux, je dirais, parce qu'elles ont... hâte de réparer. Donc quand on fait des choses avec les parents, les grands-parents qui sont décédés, ça marche 10 fois mieux.
Merci beaucoup Natacha. Et tu vois, on va boucler parce qu'il faut que tu ailles faire une autre interview, comme quoi tu es effectivement extrêmement visible désormais.
De radio ce matin, absolument.
Un grand merci pour ton temps, c'était génial.
Un immense merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.